Vous écoutez RTL.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Tibi nomen imposuit Franciscum.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà, l'annonce de l'élection du pape, c'était en mars 2013 pour découvrir ce destin incroyable, forcément passionnant. Christiane Rancé est notre invitée, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes romancière, journaliste, spécialiste des religions. Pour bien comprendre qui est, je vais le dire avec mon accent français, Georges Mario Bergoglio, je vous propose de commencer par une anecdote. Elle date de l'époque où il était évêque de Buenos Aires. L'un de ses amis n'est autre que le grand rabbin de la ville, Abraham Skorka. Ils ont un sujet de dissension. C'est quoi ?
Ah ben, ils ne sont pas fans de la même équipe de foot. Il faut savoir qu'il y a deux religions en Argentine.
Oui.
La religion dominante qui est la religion catholique. Et encore plus que la religion catholique, on peut le dire aujourd'hui, il y a le football.
Oui.
Et Monseigneur Bergoglio, à l'époque, donc archevêque de Buenos Aires, est un fan de l'équipe San Lorenzo, qu'il suit depuis qu'il est tout petit, auquel son père était abonné. Et le rabbin Skorka, qui est plus proche du stade, non pas de la Boca, qui est très connu, mais de ce qu'on appelle là-bas River Plate.
River Plate, oui, c'est une équipe très connue. Qu'est-ce qui se passe le soir où San Lorenzo bat River Plate ?
Oh ben, ce que fait le pape, qui connaissait pas très bien le rabbin, il s'était rencontré à la fin de la grande messe pour la fête nationale, et donc il s'était salué, et puis à sa grande surprise, le rabbin reçoit un coup de téléphone de l'archevêque, donc de façon très très simple, qui lui dit écoutez, rabbin Skorka, je vous invite chez moi, je vous ai fait un petit ragoût de poulet. Alors évidemment, pour comprendre l'histoire, il faut
savoir
connaître
quelque chose.
La petite blague, c'est qu'effectivement on appelle les poulets là-bas, ce sont les joueurs de River Plate. Donc voilà, et ce qui est très joli, c'est qu'il y est allé, c'est ainsi qu'est née une formidable amitié.
Christiane Rancé, il a de l'humour le pape François, c'est une de ses caractéristiques.
Ah oui, moi j'ai rencontré, parce que j'avais rencontré Monseigneur Bergoglio en Argentine, à l'époque où il était archevêque, puisque je suivais ce qu'on avait appelé la crise financière là-bas, et on m'avait parlé de Monseigneur Bergoglio comme étant celui qui avait vraiment sauvé la nation, et tout le monde l'a dit, il avait vraiment organisé des œuvres de charité, d'entraide extraordinaires, et il est très connu là-bas. Tout le monde m'a raconté toutes ces plaisanteries, et justement, encore une fois, on raconte la plaisanterie qu'il a dite à son ami le rabbin Skorka.
Parle d'un mauvais élève, c'est ça?
Voilà, absolument.
Racontez-nous l'histoire.
Ils parlaient tous les deux. Alors, évidemment, il faut voir là-bas la grande tolérance et on va dire la liberté de parole, parce que quand vous la racontez en France, les gens, pendant la première seconde, frémissent. Mais donc, ils plaisantaient tous les deux sur l'excellence des écoles et l'excellence des écoles jésuites. On sait que Monseigneur Bergoglio est un jésuite. Et donc, Monseigneur Bergoglio raconte à Skorka, il lui dit, mais je vais te raconter une histoire quand même. Voilà, il y a un juif qui est venu me voir, son fils ne fichait rien à l'école, il avait été viré absolument de partout, et donc il est venu me le confier, puisqu'à un moment donné, Bergoglio a été supérieur du collège jésuite. Et au bout de 2-3 mois, le père de cet enfant est complètement ahuri, parce qu'il a des notes magnifiques. Donc il va voir le Monseigneur Bergoglio, il dit, mais excusez-moi mon père, mais comment est-ce que vous avez fait? C'est que, j'ose pas dire que c'est un miracle, mais enfin. Et là, Bergoglio lui dit, bah, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai fait. À la troisième mauvaise note, je l'ai fait venir, je dis, viens donc dans mon bureau. J'ai montré le grand crucifix et je dis, tu vois ce que nous faisons, nous les catholiques, aux juifs qui ne sont pas obéissants. Ah oui, c'est osé.
Effectivement, c'est osé.
Ah ouais, voilà. Donc, là...
C'est pas très politiquement correct.
Mais ça, c'est révélateur de sa personnalité
Oui, parce que c'est quelqu'un qui est formidablement ingénu, formidablement proche des gens, formidablement familier. Vous savez, il a été formé par des Salésiens.
Et c'est-à-dire,
les Salésiens, c'est Don Bosco, c'est un ordre religieux qui est né en Italie, dans le Piémont, d'où est originaire sa famille. Et si vous voulez, ça a donné la personne de Don Camillo. C'est-à-dire, Don Bosco était un prêtre qui était extrêmement proche des plus simples, qui n'hésitait jamais à engueuler le maire du village quand les choses se passaient pas bien. C'est très exactement Don Camillo. Voilà. Mmh. Et s'il y a quelque chose de Don Camillo chez Monseigneur Bergoglio, aujourd'hui Pape François.
Alors, on a toute l'heure pour raconter sa vie. On va remonter au début. Vous la détaillez, cette vie, dans votre livre François, un pape parmi les hommes, publié chez Albin Michel. Il naît dans une famille d'origine italienne. Ce sont des immigrés italiens. Plutôt modeste, on va dire ça.
Oui, modeste, mais pas franchement pauvre. Mm-hmm. C'est-à-dire, effectivement, le Piémont, l'Italie de l'entre-deux-guerres connaît une pauvreté absolument terrible. Et il y a déjà des membres de la famille Bergoglio qui sont partis pour l'Argentine, mm-hmm, et qui ont appelé la deuxième partie de la famille à les suivre parce qu'ils ont fait fortune dans une petite ville d'Entre Rios, dans le nord de l'Argentine, province du cœur de l'Argentine.
Mais ils vont tout perdre à cause du krach de 29,
et
c'est
ça? Et le krach de 29 qui va arriver beaucoup plus tard en Argentine, dans les années 30, en 30-31, donc ils vont partir dans les années en 28, ils vont s'installer là-bas, ils vont rejoindre la famille, ils vont tout perdre dans les années 30, et donc le grand-père, la grand-mère et leur fils de Monseigneur Bergoglio vont se rapatrier, on va dire, à Buenos Aires pour trouver du travail, et c'est là que va naître effectivement Monseigneur Bergoglio, le François Bergoglio.
Alors de sa naissance, à ses 17 ans, on fait un bond dans le temps, nous sommes en septembre 1950. Il a des potes qui aiment le foot comme lui, et puis une petite amie qu'il doit retrouver pour une fête, et ce soir-là pourtant il ne va pas danser le tango. Pourquoi?
Alors, il faut dire qu'il y a une chose qui est très belle en Argentine, c'est qu'on fête le printemps. Alors évidemment, on est dans l'hémisphère austral, et le printemps, c'est le 21 septembre, et il se prépare. Et le 21 septembre, aujourd'hui encore, c'est une très grande fête où tous les étudiants, c'est la fête des étudiants, la fête du printemps, prennent possession de la ville, organisent le soir des pique-niques, et il y a des orchestres qui vont jouer de la milonga, du tango. C'est un full tango, c'est un foot football. On l'appelle quand même Patadura parce qu'il est pas très doué, il est pas très souple, donc il joue pas bien, donc c'est lui qui est devenu l'arbitre du club de son quartier. Ouais. Il a une petite amie, et ce 21 septembre, effectivement, il décide, avec ses copains, il a 21 ans, faire la fête pour le 21 septembre. Et puis il ne sait pas pourquoi, il passe à Rivadia sur cette avenue, et il voit cette espèce de petite église qu'il connaît par cœur, puisque sa grand-mère, qui est très très religieuse, qui a été sa marraine, qui l'a amenée sur les fonts baptismaux, qui le fait participer à toutes les œuvres caritatives du quartier, donc l'emmène depuis qu'il est tout petit. Et quelque chose, il dit lui-même, il ne sait pas trop quoi, une espèce de force le prend et le pousse à rentrer dans cette église. Donc il rentre dans cette église qu'il connaît, qui est plutôt vide. Et à ce moment-là, il voit passer un prêtre tout à fait inconnu, alors que je répète, il est familier de cette église, qu'il ne connaît pas. Et de la même façon, la même force le pousse à suivre ce prêtre qui rentre dans le confessionnal. Et à son tour, il rentre dans le confessionnal, décidé, encore une fois pour une raison tout à fait inconnue, à se confesser. Et il se surprend, il le dira lui-même, à parler pendant des heures à ce prêtre, et il se met même à pleurer. Et il est tout à fait investi d'une espèce de force, et il est totalement bouleversé par cette expérience. Et ce prêtre qui ne connaît pas sera venu simplement ce soir-là lui parler. Et à ce moment-là, il est converti, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il s'est passé quelque chose en lui et qu'il n'a plus du tout envie de suivre cette petite fiancée, et il est bouleversé par cette sensation, cette révélation qu'il ne s'explique pas vraiment encore.
Et vous citez d'ailleurs une phrase du futur pape: une expérience religieuse, la stupeur de se trouver devant quelqu'un qui vous attend. On continue de raconter l'histoire du pape, elle est passionnante.
Vous écoutez RTL,
première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité avec la journaliste Christiane Rancé pour découvrir le destin hors norme, évidemment, du pape François et comprendre aussi pourquoi cet Argentin veut réformer l'Église et le Vatican. Christiane Rancé, l'une des phrases les plus fortes que François prononce dans les jours qui suivent son élection, je l'adore cette phrase, c'est « Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque ». Mario Bergoglio, je vais arrêter de le prononcer. Pas fait espagnol, donc je ne vais pas essayer. Il a toujours été un homme simple, il refuse les privilèges, et l'une des origines de sa simplicité, ça vient de son enfance. Il y a une scène que vous racontez dans votre livre publié chez Albin Michel. qui se passe avec son grand-père charpentier et un marchand de clous. C'est quoi cette histoire?
Donc oui, effectivement, il a son grand-père était charpentier. Il a été élevé par sa grand-mère qu'il appelait Nonna Margarita, Rosa Margarita. Et un jour, il y a passé toutes les semaines un représentant de commerce qui venait vendre ses petites boîtes de clous. Et un jour, sa grand-mère, il devait avoir 7 ou 8 ans, lui dit « Mais dis-moi, Jorge, tu sais qui est cet homme ?» Alors elle lui dit « Ben oui, c'est le représentant qui vend des clous pour mon grand-père. » Elle lui dit « Non, il s'appelle... tu sais comment s'appelle Don Elpidio, exactement ? Tu sais comment il s'appelle ?» Donc il lui prenait on lui offrait du vin, un thé... Elle dit non, il s'appelle Don Elpidio González. Et lui dit, ah bon, et qui est-ce? C'est l'ancien vice-président de la nation argentine, qui était le vice-président de Alvear, du président Alvear. Et il lui dit, mais comment ça se fait? Il lui est arrivé quelque chose? Elle lui dit non. Une fois qu'il a terminé de remplir sa fonction, il est revenu à son premier métier, qui est effectivement de faire des clous pour les charpentes. Et cet exemple, il le raconte, l'a toujours profondément marqué, d'autant plus qu'il est il a quand même été élevé, il est lui-même immigré, enfant d'immigré plutôt, il a été élevé dans une nation où l'entraide est très importante, qui est quand même constituée au départ de gens extrêmement pauvres, qui ont l'habitude de se prêter un litre de lait. Donc il y a cette espèce de relation au service, à l'entraide, au travail simple, plus qu'à l'apparence, au bling-bling dont il a absolument toujours eu horreur.
Mais quand même, il a fait carrière. Pour devenir pape, il faut quand même avoir cette idée en tête, non ?
Il faut intriguer pour devenir pape ?
Justement pas lui, parce qu'il va choisir, d'abord c'est pas dans sa nature, ensuite il va choisir justement l'ordre des jésuites. Vous savez que les jésuites ne peuvent pas garder, même quand ils font, on va dire, carrière, ils ne peuvent pas garder longtemps une nomination très forte. Et d'ailleurs, quand il sera lui-même jésuite, il faudra l'intervention de Jean-Paul II pour le nommer archevêque de Buenos Aires, parce que le fait qu'il soit jésuite l'empêchait effectivement d'accéder à de hautes fonctions. C'est quelqu'un qui a horreur de la carrière, c'est quelqu'un qui a horreur des atours, des attraits, et il choisit justement cet ordre pour éviter ces
marques extérieures de pouvoir.
Et il passera son temps à dire toujours, tout le monde, moi j'étais donc à Buenos Aires, j'ai rencontré tout son staff, comme on peut le dire là-bas, l'archevêché. La première chose qu'il a toujours dite, ça a été, ne prenez pas la grosse tête. C'était, il parlait d'une façon très populaire, il disait surtout, ne vous prenez pas pour quelqu'un de plus important que vous êtes. Et quand il a été nommé archevêque de Buenos Aires, il a fait absolument scandale, parce que la première chose qu'il a faite en Amérique latine, il faut voir l'Amérique latine avec la pesanteur, la représentation, le statut social, les apparats.
C'était au début des années 90.
Donc tout au début des années 90. Donc il a demandé au chauffeur de la voiture officielle de travailler ailleurs. Donc il n'a pas licencié, mais il a vendu la voiture pour donner l'argent aux bonnes œuvres. Il s'est installé une petite cellule. Il a abandonné la grande résidence de l'archevêché à côté de la Casa de los Olivos, de la maison résidentielle des présidents de la nation, et il s'est mis à voyager à pieds nus, enfin presque avec ses vieilles chaussures, à prendre le métro, à aller visiter les maisons, les villas qu'on appelle les villas miserias, c'est-à-dire les bidonvilles là-bas, et il a toujours vécu de la façon la plus simple. Il se cuisinait lui-même sa petite cuisine, faisait ses petits repas, et il a vécu comme le prêtre le plus pauvre qui soit, tout en étant archevêque.
Alors quand l'archevêque Jorge Mario Bergoglio devient le pape François, il change de statut quand même. Il va vivre où, par exemple ?
Alors justement, la première chose qu'il va faire, on a beaucoup dit, mais de toute façon, ce pape ne pourra pas faire grand-chose. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est que dans les premières minutes de son pontificat, il va commencer à réformer. Comment ? Eh bien d'abord, il ne rentre pas en papa mobile. Il rentre avec les autres de la curie dans l'autobus qui va les ramener effectivement loin dans la maison Sainte-Marthe.
Mais c'est dangereux ? Il prend un risque, non ?
Non, parce que là, effectivement, il est avec tous les autres, avec tous ceux qui étaient papabilables, on va dire papabilés. Donc, il rentre avec eux en autobus, il refuse la voiture. Il va s'installer, il va rester dans la maison Sainte-Marthe, qui est la maison qui accueille effectivement tous les archevêques, tous les ecclésiastiques de passage.
Mais aujourd'hui encore, il vit dans cette maison ou il est dans les appartements ?
Non, il a refusé. D'ailleurs, il a très bien dit pourquoi. Il a dit, moi, je trouve ça très, très beau, il n'y a rien à dire.
Il renonce à quoi alors ?
Mais il a horreur de vivre seul. Il a choisi, effectivement, il a choisi un ordre pour être au milieu. D'ailleurs, j'ai appelé mon livre « Un pape parmi les hommes » parce que c'est quelqu'un qui voulait vivre parmi les hommes. Mmh. Et il dit des appartements pontificaux, ça ressemble à un entonnoir. L'entrée est immense, très très large et magnifique. Et puis après, il y a un tout petit bout et on se retrouve tout seul dans des trucs immenses. Et j'ai horreur de ça. Donc, il est resté à la maison Sainte-Marthe. Il parle à tous les gens qui y vivent. Il a sa chambre là. Il prend son petit déjeuner avec... il dit la messe, il prend son petit déjeuner avec les gens qui travaillent le plus simplement du monde au Vatican. Et c'est quelqu'un qui est resté extrêmement proche des autres.
Le pape François qui aime aussi le football, le poulet à la crème et la milonga.
La milonga, la voilà.
Oh, c'est fun. Ah.
Bon, c'est un tango quand même.
La milonga,
est-ce qu'on l'a, la milonga?
On va la retrouver,
André
tranquillement.
André Facetta va nous la retrouver. C'est une danse populaire argentine, c'est ça?
C'est une forme de tango, la milonga.
D'accord.
Que le pape a longtemps dansé. Il peut le danser? Un pape peut danser encore?
Oh ben je pense que si, oui, je pense que il n'y a pas de confusion dans son esprit. C'est un pape qui est joyeux. Et c'est toujours une phrase de Sainte Thérèse, il n'y a rien de plus triste qu'un triste saint. Voilà, donc pour lui, la joie est la première, c'est la pierre de touche de toute action. Et danser, la musique, alors évidemment, il ne descendra pas dans des boîtes de nuit. Mais je pense que...
il va au cinéma.
Il aime beaucoup le cinéma, il aime beaucoup la littérature. C'est un pape qui est très érudit, très attaché à la littérature argentine. Il a connu Borges, ce grand intellectuel, dont il est allé suivre les cours à l'université. Ils se sont rencontrés et il a effectivement des livres préférés, des films préférés, notamment les films italiens, bien évidemment, les films réalistes, et puis le fameux Festin de Babette.
Avec Stéphane Audran ?
Avec Stéphane Audran.
Un peu de milonga quand même.
Allez.
Argentine.
D'un seul coup, on est avec le pape François. Je vais l'appeler Georges-Marie, ça va être plus simple.
Oui.
Georges-Marie Bergoglio.
Je vais arrêter de faire semblant d'avoir un super accent.
Comment est-il devenu pape? On vous raconte les jours qui ont précédé son élection. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous raconte la vie passionnante de Georges Mario Bergoglio avec la journaliste Christiane Rancé qui publie François, un pape parmi les hommes. C'est aux éditions Albin Michel, un pape, on l'a raconté, qui aime le poule à la crème, la musique et le foot. Et les commentateurs argentins le savent aussi.
On a le pape et Messi et vous avez le Brésil et le Pelé et le pain de sucre.
Oui, non, surtout il dit pape, sois avec moi, sois conmigo, pape, depuis le Vatican, sois avec moi et sois avec Messi.
C'est une rockstar le pape François pour les Argentins.
Ah ben écoutez, c'est extraordinaire parce que moi j'étais en Argentine, j'étais à Buenos Aires quand il a été élu. Alors il faut dire, j'ai reçu.
Ah, vous avez du nez, hein?
Non, pas du tout, c'était tout à fait, j'étais pour d'autres raisons. Et je reçois un coup de téléphone de France, amis qui me disent, mais tu sais qu'il n'est pas. Donc je suivais un petit peu l'actualité, j'ai dit si vite, on m'a dit oui, c'est l'archevêque argentin. Et donc j'étais moi-même un peu stupéfaite et nous sommes partis avec mon ami pour la cathédrale, pour la place de Mai où il y a la cathédrale, et c'était très curieux, une espèce de silence stupéfait sur toute la ville. Donc on est arrivé devant cette cathédrale et la première chose, donc tous les Argentins, les porteños comme on dit, les gens de Buenos Aires s'étaient réunis devant la cathédrale, et le premier cri du cœur des Argentins c'était Brasil 0 Argentina 1, parce qu'on avait dit, on avait raconté que ce serait le cardinal brésilien qui risquait d'être élu. Et là, pour les Argentins, c'était fou parce que d'un seul coup, et au foot et au Vatican, ils avaient battu le Brésil. Donc ils étaient enchantés.
Oui, parce que ça, cet extrait, ça devait être après un match de Copa América ou quelque chose comme ça où l'Argentine menait face au Brésil. On va découvrir maintenant comment il a été élu pape. Il y a déjà, dans votre livre, il y a des histoires de présages qui ont je sais pas, présider, si j'ose dire, à l'élection de François.
Oui, alors il y a eu beaucoup de bruit parce que il faut savoir quand même que l'Église allait très très mal. Mmh. C'est la raison pour laquelle Benoît XVI, Monseigneur Ratzinger, a quand même renoncé. Il ne faut pas dire démissionné, mais renoncé. L'Église allait très très mal. Et au moment de sa démission, il y a eu effectivement la chute dans l'Oural d'un météore. Il y a eu effectivement la foudre qui est tombée sur le Vatican, qui a été prise en photo de façon absolument incroyable par un photographe.
Vrai, c'était le soir de la
Oui, alors c'est en plus, ça, ouais. C'était au mois de février. La foudre au mois de février, en général, les orages, c'est l'été. Mmh. Donc effectivement, il y a eu une espèce de frisli d'angoisse. Et puis, il est vrai aussi que pour beaucoup de gens, notamment en Amérique du Sud, il y a eu un sentiment terrible parce que tout allait très mal. Il y avait la crise absolument partout. Il y avait du chômage. Et cette impression, tout d'un coup, que même le pape était obligé de renoncer, ne pouvait plus assumer, ne pouvait plus affronter les événements, ça donnait quelque chose qui avait un petit arrière-goût d'apocalypse. Mmh. Donc, il y avait effectivement tous ces présages qui étaient là et on attendait, on se demandait qui pouvait être le futur pape et on l'attendait avec effectivement énormément à la fois d'inquiétude et d'espérance chez les catholiques, il faut quand même le dire.
Christiane Rancel, le jour de la renonciation de Benoît XVI, Monseigneur Bergoglio donne une messe et un fidèle lui parle à la fin. Il lui dit quelque chose qui va beaucoup le troubler.
Alors, il s'est passé en Argentine deux choses. La première, effectivement, ça a été pendant cette messe qu'il donnait toujours, il va toujours une fois par semaine donner dans cette église. Et tout d'un coup, il y a ça c'est son grand ami, Monseigneur Ricardo Fiat, qui était avec lui, qui me l'a raconté. Et ça a troublé l'archevêque à ce moment-là. Il y a tout d'un coup un fidèle qui s'est levé et qui, pris d'une espèce d'illumination, lui a dit « Mais tu vas être pape, tu seras pape. » Alors qu'il ne pouvait pas savoir à ce moment-là que Benoît XVI était en train de renoncer à sa...
Ah, dans l'église, il ne le savait pas.
Ah non, à ce moment-là, il ne le savait absolument pas. Donc ensuite, ça a pris, évidemment, ça s'est répandu dans tout Buenos Aires d'une façon incroyable. Et puis, il y a aussi cette histoire, il attendait donc, Monseigneur Bergoglio attendait sa retraite, et il attendait avec impatience, il voulait revenir dans son petit quartier de Buenos Aires, continuer à s'occuper des bidonvilles, il s'est énormément occupé des bidonvilles, de la misère là-bas, du narcotrafic. Il a créé, il faut le dire, énormément de vocations. Donc il était très très fatigué, on va dire, des difficultés qu'il avait avec le pouvoir politique et voulait vraiment revenir à une œuvre de charité. Et il attendait que Benoît XVI lui dise « Bon ben voilà, ça y est, je prends acte, vous avez 75 ans passés, donc je prends acte maintenant de votre retraite. » Et puis il tombe sur un journaliste qui ricanait, qui attendait d'avoir un petit peu des nouvelles, connaissance à ses difficultés avec les Kirchner, et lui dit...
Alors les Kirchner, c'est le couple qui...
C'est le couple qui
dirige l'Argentine.
Et qui l'avait, on va dire, dans le nez, bille en tête, qu'il a attaqué d'emblée. Et donc, va lui dire, et puis dire, Monseigneur Bergoglio, qu'est-ce que vous allez faire après avoir été archevêque de Buenos Aires? Il a répondu sur une boutade, mais ça lui est venu aux lèvres, je serai pape. Et lui-même s'en est retrouvé absolument surpris. Les deux, le journaliste et
les bras
sont tombés. Donc tout ça, évidemment, a créé une légende absolument incroyable.
Et il y a la légende aussi du chiffre 13. Son élection est liée au chiffre 13.
Et oui, parce que vous imaginez, c'est un 13 mars 2013. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Il a prononcé ses vœux un 13 décembre. Le chiffre 13 est tout à fait dans sa vie. Et il y a cette espèce d'attachement effectivement au numéro 3. Il a été élu à 3 heures pour l'Argentine, enfin donc parce qu'avec le décalage horaire ça fait il a été nommé archevêque aussi à un 13, enfin tout ça, ce chiffre et le chiffre 3 est très très présent dans sa vie.
Mais l'élection d'un pape on peut dire l'élection d'un pape est forcément lié à une sorte de mystification, de légende, parce que là, on raconte ces présages, ces météorites qui tombent, ce jour 13, je trouve ça fabuleux, ce sont des belles histoires, mais c'est des histoires qu'on a envie de se raconter.
Et ben, il est évident qu'il y a quelque chose, vous savez, c'est l'Esprit Saint qui inspire les cardinaux dans leur élection. Donc c'est tout d'un coup, c'est l'Esprit Saint en fait qui est le grand électeur du pape. Et il est bien évident que si l'on croit aux intercessions divines, on ne peut que croire aux signes, aux prophéties. La Bible est pleine de prophéties, donc on ne peut qu'y croire. Alors évidemment, dans un moment aussi critique, c'était quand même la première fois de l'ère moderne qu'un pape renonçait à sa fonction, ce qui était déjà un coup de tonnerre absolument incroyable dans le ciel, qui a été suivi par un coup de tonnerre lui-même réel. Donc
trois fois la foudre.
Donc effectivement, on peut imaginer cette espèce de légende qui a porté cet homme tout à fait inattendu et tout à fait acclamé.
Et ces premières semaines de pontificat vont marquer l'histoire, sa simplicité et son intransigeance aussi face au scandale.
Vous écoutez RTL.
Ce soir sur RTL, on vous raconte la vie extraordinaire du pape François. Mais s'il veut rester simple, et c'est un pape de la vie aussi, qui veut rester simple et qui rejette les privilèges et les honneurs. C'est ce qu'on a raconté là, dans la première partie de cette interview que vous pouvez réécouter, bien sûr, en podcast sur RTL.fr. Nous sommes en compagnie de la journaliste Christiane Rancé. Le pape a annoncé aujourd'hui la création d'un tribunal pour juger les évêques qui couvrent des abus sexuels. Comment cette instance judiciaire, selon vous, pourrait-elle fonctionner ?
Je pense comme un simple tribunal. Ça, je ne connais pas vraiment le détail de l'histoire, mais ce que je sais, c'est que dès le départ, on avait dit, mais de toute façon, jamais ce pape ne pourra réformer la curie, c'est des travaux d'Hercule. Je m'amusais toujours à faire un jeu de mots en disant la curie d'Augias, tellement effectivement le scandale ne cessait de s'accumuler dans cet endroit. Et puis, comme toujours à sa façon, c'est quelqu'un qui agit, qui parle peu. Dès l'été le premier été de son pontificat, au lieu de partir pour la villa,
la résidence
Castel Gandolfo, que d'ailleurs il
résidence a ouvert d'été des papes,
la résidence d'été où plus personne, enfin qu'il a ouverte au public et en demandant que les gens puissent aller se promener dans les jardins, qu'il n'occupe pas puisqu'il travaille tous les étés. Il a mis toutes les congrégations du Vatican, c'est-à-dire les ministères, au travail, et dans ses travaux, il leur a demandé de prévoir une réforme du code pénal de façon que le crime de pédophilie fasse partie du code pénal du Vatican, puisque ça n'était pas encore le cas, et qu'ensuite il puisse y avoir effectivement des relations avec les justices nationales de façon que les prêtres accusés de pédophilie dans les pays où ils avaient commis ces crimes, puisqu'ils considèrent comme des crimes, et lui des crimes et une honte absolument atroce, c'est un crime qui le révulse profondément, puissent être poursuivis par la justice. Donc tout ça est en train de prendre forme. Alors je ne sais pas sur quel accord entre l'État du Vatican, qui est quand même un État, et les États nationaux, on est parvenu, mais en tout cas, il n'y aura plus de possibilité pour les prêtres responsables de crimes comme ça d'échapper à la justice, de la même façon qu'il est lui tout à fait déterminé à ne pas cacher ce genre de crime et à expliquer que personne ne peut échapper à la justice, et surtout pas la justice divine.
Donc le pape François va beaucoup plus loin sur ce dossier que Benoît XVI.
Ah ben bien évidemment, parce qu'il met les outils en œuvre. Benoît XVI a été le premier, effectivement, à se rendre compte et à dénoncer ces crimes au sein de l'Église, à les reconnaître, puisque jusque-là, on avait tellement peur que l'Église soit éclaboussée, on avait tellement peur de la réputation mauvaise qu'elle allait pouvoir avoir dans ces histoires, qu'on avait décidé, les papes avaient décidé, ou les instances religieuses dans la hiérarchie avaient décidé de cacher la majorité des crimes. On connaît les histoires irlandaises, on connaît les histoires américaines, donc on connaît les déplacements de prêtres qui étaient effectivement accusés à juste titre et coupables de pédophilie. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Benoît XVI, le premier, a décidé de tout dire. Le pape François, lui, a décidé d'armer la justice pour punir et pour faire en sorte que ça ne se passe plus.
Christiane Rancé, le pape François a été confronté très vite au scandale quelques semaines après son arrivée au Vatican en juin 2013. Il y a d'abord un scandale financier qui éclate, c'est ça, avec une histoire de 20 millions d'euros rapatriés secrètement par un évêque ou par un cardinal.
C'est Monseigneur Scarano, voilà, qui occupait le poste de chef comptable chargé du patrimoine du Vatican. Donc il avait été pris en flagrant délit de rapatriement illégal depuis la Suisse de 20 millions d'euros afin de les blanchir sur les comptes de l'IOR.
L'IOR,
c'est ce qu'on appelle l'Institut pour les œuvres religieuses, qui est une espèce de banque, mais c'est une banque à tiroir avec des espèces de sous-succursales un petit peu partout. Et c'est une banque qui était très particulière, puisque au départ, elle ne devait être consacrée qu'aux œuvres religieuses et ne recevoir l'argent que des ecclésiastiques. Or, il y avait une fonction qui avait perduré depuis le Moyen-Âge, qu'on appelait les gentilshommes du Vatican, et qui étaient, on va dire, des familles, des gens qui avaient droit d'aller au Vatican et d'aider, de s'occuper de la réception, les grandes familles, les grands notables de Rome ou des grandes familles, donc depuis le fameux Vatican, on va dire, des Borgia et et de la Renaissance. Donc, ces gentilshommes avaient le droit de venir au Vatican pour recevoir les chefs d'État, pour s'occuper des fêtes, d'apparats qui étaient donnés, puisque je le répète, c'est un État. Et spécialité, cette chose un petit peu étrange, a perduré, mais surtout, elle donnait droit à ces gentilshommes du Vatican d'ouvrir des comptes en banque au Vatican. Donc on imagine immédiatement ce qu'a représenté l'attrait pour les mafieux, pour les blanchiments d'argent, puisque les comptes du Vatican ne sont pas susceptibles d'être passés, on va dire, au crible pour savoir s'il y a du blanchiment, pour connaître les sources financières. Donc vous imaginez, vous ouvrez un compte en banque absolument occulte, vous pouvez retirer de l'argent, on va dire, un petit peu dans le monde entier, et personne ne vient vous demander quel compte il peut y avoir. Donc au départ, le pape François avait dit que la réforme de ce fameux IOR, qui est sans doute une des raisons pour laquelle le pape Benoît XVI avait démissionné, parce qu'il s'était aperçu effectivement de l'énormité des scandales. Donc il y a cette fameuse histoire de Monseigneur Scarano, mais il y avait aussi toutes les histoires de prélats bling-bling, de détournement de fonds, de blanchiment. Vous savez, c'est ce qui a donné la fameuse histoire de la fin du parrain. On a dit que le pape assassiné de Jean-Paul Ier avait été assassiné parce qu'il avait été le premier à vouloir réformer cet institut pour les œuvres religieuses, et que la mafia avait passé un contrat sur lui, et d'ailleurs était arrivée, prétend-on, et la mafia était arrivée à ses fins en le faisant assassiner.
Et donc le pape François contrôlait tout ça, mettre fin à tout ça?
Ah mais il a mis fin à tout ça. Et il a mis fin à tout ça d'une façon extrêmement douloureuse pour lui. Parce que on l'a conseillé, quand il y a eu ce fameux scandale, ce premier scandale, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas attendre dans les réformes de la curie, il pouvait pas attendre éternellement de faire cette réforme énorme des finances du Vatican. Donc on lui a conseillé un certain Battista Ricca pour s'occuper effectivement de mettre en œuvre cette réforme, et ce monseigneur Battista Ricca devait être celui qui était le go-between avec lui. Il se trouve que cet homme, il a accepté cette nomination, cette proposition, et on s'est aperçu que Monseigneur Battista Ricca était un homosexuel qui avait fait scandale quand il était à l'ambassade, à l'annonciature de Montevideo en Uruguay, qu'il avait eu des histoires absolument incroyables avec son amant, qui était un militaire suisse, qu'il avait fait venir avec lui, qu'on avait retrouvé dans une mallette du militaire suisse des armes et de la drogue. Enfin, ce pauvre monsieur, et tout ça pour salir effectivement le pape François, pour essayer de faire
peur.
Et bien évidemment, parce que tout le monde connaissait ce scandale, il n'était pas au courant de tous les dossiers, et on l'a piégé, c'est bien évident. Et c'est à partir du moment où il a eu connaissance de ce piège qu'il a décidé effectivement là de réformer, de nommer un conseil et de travailler en profondément sur cette réforme.
Le pape François, qui a toujours dérangé, vous avez évoqué le nom du couple Kirchner qui dirigeait l'Argentine. Ils ont essayé eux aussi de le mouiller dans un scandale. On va vous le raconter dans un instant.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et maintenant, nous commençons ce chemin évêque et peuple. Ce chemin de l'Église de Rome. Un chemin de fraternité, d'amour. De confiance entre nous.
RTL.
Fratelli e sorelle.
Frères et sœurs.
Pregate per me.
Priez pour moi.
Buonanotte e buon riposo.
Bonne nuit et bon repos.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les premiers mots du pape François juste après son élection. Priez pour moi, c'est ce qu'il disait toujours, même quand il était archevêque, c'est ça. Il terminait toujours ses discussions.
Absolument,
comme ça.
Absolument, et ça, effectivement, ça a bouleversé tous les gens à qui il disait ça, parce que même archevêque, il demandait avec une grande humilité, compris pour lui.
Ouais. Christiane Rancé, vous publiez François, un pape parmi les hommes, chez Albin Michel. J'évoquais tout à l'heure ce bras de fer, en quelque sorte, avec les Kirchner qui sont au pouvoir en Argentine au début des années 2000 et qui vont tenter de se débarrasser de Bergoglio, l'évêque des pauvres, en le mouillant dans un scandale. C'est quoi cette histoire?
Alors, la première, il faut savoir pourquoi. C'est que quand il a pris son poste, on va dire, il a pris son poste d'archevêque, on pensait que ce petit jésuite qui marchait pieds nus avec les pauvres ne serait pas incommodant. Mmh. Et la première homélie qu'il fait, dans la première messe pour la fête nationale, il monte en chaire et il commence à conspuer tous les politiques en disant: vous, qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Vous êtes des voleurs. Voilà tel dossier, où est passé l'argent? Donc, il était devenu la bête noire, effectivement, des politiques et des Kirchner, dont il ne cessait d'accuser la corruption. Mmh. Donc, effectivement, quand en 2005, parce qu'en 2005, il a failli être élu pape, il a eu une peur, panique, quand il a vu, effectivement, qu'à chaque tour, les voix commençaient à s'accumuler sur son nom. Donc, il a demandé à ne pas être nommé pape, à ne pas être élu. Mais quand Cristina et Néstor Kirchner ont appris l'histoire, ils se sont dit que ce serait catastrophique pour eux d'avoir quelqu'un qui parle de leur corruption aussi loin. Donc, ils ont essayé de le mouiller en faisant croire qu'il avait dénoncé, qu'il avait été très proche de la dictature. Il y a une dictature en Argentine absolument terrible.
Le général Videla.
Avec le général Videla, qui avait un homme de main qui s'appelait Massera. Et donc, on a prétendu qu'il avait dénoncé deux prêtres qui étaient très proches donc de la théologie de la libération, et qu'à cause de lui, ces prêtres avaient été torturés. Et
c'est complètement faux. Il y a eu des dizaines de témoignages, c'est ça?
Ensuite, heureusement, il y a eu un journaliste qui a fait tout un travail. Effectivement, il appelait ça la liste de Bergoglio, où effectivement, il y a eu un nombre de témoignages absolument indignés qui ont rétabli la vérité, qui ont expliqué que Bergoglio avait même averti ces deux prêtres qu'ils étaient, on va dire, dans le collimateur de la junte militaire. Ils n'ont pas voulu partir, ils ont été arrêtés, et ils n'étaient pour rien.
Christiane Rancé, vous publiez François, un pape parmi les hommes, aux éditions Albin Michel. Un pape parmi les hommes parce qu'il a été très amoureux, lui aussi, une fois dans sa vie.
C'est un pape qui est très très humain et qui justement est très très proche, effectivement, parce que il a ressenti, on va dire, toutes les tentations, tous les sentiments d'un homme normal, de l'homme qui, avant de prendre, on va dire, de rentrer dans les ordres.
Que lui arrive-t-il quelques jours avant de prononcer ses vœux, c'est ça? Il est encore séminariste?
Effectivement, il est encore séminariste. Il va à un mariage, son oncle se marie, il est invité à un mariage, et là, il tombe raide dingue amoureux. Il tombe, et il est totalement, il n'arrive même plus à prier. Et il se pose la question de savoir si effectivement il doit aller vers cette jeune femme ou renoncer à prononcer ses vœux ou rester dans l'église. Et il a une très belle formule, il dit: j'ai laissé l'église me choisir. Et ça va lui donner effectivement une grande, grande, on va dire, miséricorde, une grande compréhension, parce qu'il dira que de toute façon, c'est une chose qui doit arriver à tous les hommes dans leur vie, de faire une rencontre, et qu'il faut effectivement s'y préparer, et que le contraire serait anormal. C'est quelqu'un qui trouve qu'un homme qui peut tomber amoureux d'une femme, c'est tout à fait humain et tout à fait normal, et qu'il ne faut pas en faire un drame. Voilà.
Et le célibat des prêtres, est-ce que le pape François serait prêt à le réformer?
Alors, personnellement, il a demandé effectivement que la question, mais c'est pas une question de dogme, c'est une question de discipline, que la question soit posée et qu'on s'interroge. Il est favorable plutôt au célibat, mais il a demandé effectivement qu'il y ait une réflexion sur cette question, et ça n'est pas à lui d'en décider. Il a demandé effectivement qu'il y ait une réunion de...
C'est nouveau, ça, au sein de la
papauté? Ça va faire partie effectivement des grandes réformes du pape François, mais il en fait tellement que les réformes...
Mais il a aussi des adversaires, c'est pas si simple, il y a des freins à ces réformes.
Bien sûr, il a des adversaires, parce que d'abord, de demander aux gens de renoncer au pouvoir, le Vatican est un État avec une hiérarchie, avec des pouvoirs très très forts et très très grands. Donc de demander à tout le monde de revenir à la pauvreté, de revenir à la parole évangélique, et de sortir la papauté de cette espèce de ganse d'or et d'apparat, pour en refaire une collégialité, en invitant beaucoup plus les évêques du monde entier, en faisant du pape le premier des apôtres, du successeur de Pierre, mais le premier des apôtres. Ça connaît amené effectivement de grandes réticences, notamment chez les Italiens, qui voient effectivement leur primauté, on va dire, historique sur l'Église, très compromise par ce pape du Nouveau Monde.
Christiane Rancet, le pape François, un pape qui réforme, un pape humble, un pape sympa, un pape drôle, un pape qui aime le foot. Mais il doit bien avoir des défauts, puisque c'est un homme comme les autres.
Alors, il dit lui-même qu'il est très autoritaire et il se méfie de ça, effectivement. Il dit, pendant...
Voire intransigeant ?
Il est très intransigeant. C'est quelqu'un qui parle en vérité. Il est extrêmement proche des évangiles. Quand il y a un doute sur une réponse à donner, une réponse à faire, il reprend une parole de Jésus. C'est son fameux « Qui suis-je, moi, pour juger ?» quand on essayait de le piéger pour savoir ce qu'il pensait de l'homosexualité. Donc, c'est quelqu'un qui est très proche des évangiles. Et en même temps, il est tellement persuadé de cette force que quand il prend une décision, il avance comme un bulldozer et donc ça lui fait... Il n'est pas très diplomate, effectivement, ça lui fait beaucoup d'ennemis.
Merci beaucoup, Christiane Rancet-François. Un pape parmi les hommes, c'est publié chez Albin Michel et je retiens cette phrase de François. Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque.
Vous écoutez RTL.